Bonsoir, on vous l'a dit par exemple en début de semaine à propos du repositionnement de Carrefour qui accélère sur le bio, sur le digital. Le client, il aime la proximité, la qualité, l'écoute. Oui, un client qui justement eh bien, se sent unique, qui veut qu'on lui parle à lui et rien qu'à lui justement. Et il sait se manifester le cas échéant justement, les réseaux sociaux font partie de ses armes. Alors, dans ce contexte, quelle est la réaction des marques justement? Quelles nouvelles tendances au service de leur stratégie ont-elles une latitude? Oui, parce qu'au final, quelque part, le client n'a-t-il pas pris le pouvoir sur les marques? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, rendez-vous ce soir des décodeurs de l'écho sur BFM Business qui s'intègre dans une série de rendez-vous initiés, organisés par la Post Solution Business avec BFM Business, avec l'Express autour des nouvelles armes de séduction, des nouveaux défis de la communication pour aller accélérer les ventes en ligne quelque part et puis l'expérience client. On va beaucoup vous parler d'expérience client avec des grands acteurs du secteur. Sylvain Rabuel, directeur général du Club Med qui ne cesse d'ouvrir des villages, hein, c'était juste avant les vacances de Noël, Grand Massif à Samoins, en Haute-Savoie, et puis il y a quelques jours, hein, le Club Med Tomamu Hokkaido, deuxième récente montagne au Japon, en attendant, chez Falou, 5 tridents début juin. Avec nous, Charlotte Journobor, fondatrice de Wishibam, c'est une marketplace mode et beauté, avec des milliers de marques, des centaines de milliers de produits référencés, qui allie quelque part finalement eh bien le traditionnel, voilà l'immédiateté du online qu'on connaît bien, et puis la complicité de l'humain avec du conseil. Nelly Roddy, fondatrice de l'agence de design et de tendance Nelly Roddy, Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business, et puis Catherine Danerol, directrice Business Unit Courrier à La Poste. Alors, comment? Tout d'abord, pour essayer de bien comprendre quelle va être la réaction des marques, justement, les remèdes, ces nouvelles tendance au service des stratégies, comment le consommateur déjà se comporte-t-il? Parce qu'on l'a dit, tout va vite, tout s'accélère. Nelly Roddy, vous avez créé votre agence de design, c'était en 85. Vous avez pris un petit peu de large, mais vous avez eu le temps quand même d'examiner un peu le comportement des consommateurs. Ils ont changé, ces consommateurs, je le disais, tout s'accélère. Comment est-ce qu'ils ont évolué, justement? Ils ont pris le pouvoir?
Ils ont pris complètement le pouvoir. Je réponds oui à la question que vous avez affichée. Plus rien à voir avec ces années 80 ou les années 70 ou même encore 90. Lorsque nous étions sur un consommateur qui suivait des tendances qu'on pouvait lui conseiller, aujourd'hui, le consommateur veut à la fois être acteur, être un prescripteur, être un créatif, car il intervient énormément aussi dans l'évolution des collections, et il veut partager le pouvoir, l'achat, l'économie participative. C'est un consommateur extrêmement actif que nous avons aujourd'hui et qui superpose comme ça les différentes qualités.
Ouais, ça doit être un peu frustrant, comme quand vous, par exemple, on a évolué dans la mode, hein, avec des grandes marques comme André Courrèges, quand on a créé des salons comme Maison et Objets, Première Vision, finalement, au départ, bah, vous espériez, et vous le faisiez d'ailleurs, quelque part, impulser une tendance, non pas que vous imposiez, mais que vous proposiez en tout cas aux clients. Maintenant, c'est tout le contraire, hein. C'est le client qui va vous dire « je veux ci et je veux ça ».
Oui, c'est pas tout à fait ça, c'est pas aussi radical. Mais il est vrai qu'il y a toujours besoin, particulièrement dans des salons professionnels, il y a toujours besoin de conseils, d'espaces où on va trouver les grandes tendances qui font le résumé, par exemple, du salon. Mais le consommateur, particulièrement par le digital aujourd'hui, intervient en instant T. Il agit particulièrement, on rectifie le tir tout le temps, tous les jours, et les choses évoluent en boucle grâce aux consommateurs, grâce ou à cause d'eux.
Emmanuel Lechypre.
Non, c'est vrai qu'il est ce consommateur, il est. Alors, j'ai cherché un mot, parce que j'avais envie de dire, quand je vous entendais, un consommateur un peu mouton, et j'ai pas trouvé l'animal moderne qui pourrait le définir. Mais effectivement, d'abord, il est ce qui le caractérise, c'est qu'il est effectivement impatient. Alors attention, il est impatient,
exigeant.
Il est exigeant. Il n'est pas impatient, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas parce que vous allez ouvrir un magasin 24 heures sur 24 que ça va répondre aux attentes du consommateur. Il est exigeant et impatient au sens où il veut une réponse. Il veut qu'on lui dise concrètement comment il va être traité très vite. Il est devenu expert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les outils, il peut comparer les prix. Il sait très bien évaluer un petit peu l'étendue de la gamme qui lui est proposée.
C'est le règne du consommateur.
Beaucoup plus. Il est devenu beaucoup plus tourné vers les circuits courts. Il veut de la transparence, à la fois sur les prix et sur le service. Et puis, effectivement,
il veut
qu'on lui parle. Et puis surtout, il est aussi prêt. Et ça, c'est aussi différent. Il est aussi prêt à partager. Alors son expérience, il est prêt à partager ses données et il est prêt à ne plus être propriétaire. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est l'usage. Hein, en fait, c'est pour ça que vraiment cette économie. Avant, on était vraiment dans une économie qui était une économie de la production et de consommation de biens et de services. Maintenant, on est dans une économie qui est de la fabrication de solutions dans laquelle chacun va trouver sa solution en combinant une multitude de biens et services. Et ouais, ça, c'est révolutionnaire.
Avec des frontières qui s'estompent de plus en plus. Là, vous le dites, production, consommation. Ouais. Même online, offline, finalement, ouais, les magasins en dur, les sites internet, tout ça, il n'y a plus de frontières.
Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve que c'est ce que ce consommateur, même quand on essaye de faire du marketing. Avant, moi, je me rappelle, j'ai commencé, le premier job que j'ai eu, c'était, vous savez, on faisait de l'îlotage marketing. C'est-à-dire qu'en gros, on avait des plans des villes, et alors, sur chaque pâté de maison, vous aviez la définition sociologique et des tas de couleurs par quartier. Vous disiez, formidable, on va pouvoir faire du marketing intelligent, incroyable. Donc, vous aviez décelé, par exemple, que dans un immeuble, il y avait beaucoup de familles. Alors, paf, toutes les boîtes aux lettres de l'immeuble étaient remplies de pubs pour les couches culottes. Donc, c'était le truc. On vous proposait 200 produits. Et puis, s'il y en avait 10 qui vous intéressaient, c'était super. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on va devoir vous proposer 200 produits qui potentiellement vous intéressent. Après, vous ferez votre choix.
Parce qu'on nous connaît.
Et donc l'idée c'est plus d'arriver à ranger le client dans des cases, même les plus fines possibles, pour savoir à quelle catégorie il correspond. Non, c'est d'essayer de comprendre toutes les cases qui vont composer maintenant votre client.
Et en même temps, toutes ces cases-là, et c'est plus du tout segmenté.
Bon, comportement très macronien tout seul, comportement du consommateur. Sylvain Rabuel du Club Med, le dialogue, on voit avec les marques change. Il faut désormais penser qu'en fonction de l'intention exprimée par chaque client, pas tous les clients, c'est fini la masse. Hein.
Oui, l'approche massifiée des clients, elle est révolue. Il faut privilégier une approche individualisée. Pour autant, moi, je constate pas que dans l'ensemble des marchés, je parle pas spécialement de mon marché, mais dans l'ensemble des marchés, que les entreprises et les marques se soient adaptées à ça. Pour répondre à votre question, est-ce que le pouvoir est au client ? Moi, je dis pas encore. L'immense majorité des pratiques commerciales, marketing, relationnelles, ce sont encore des pratiques du passé. Il faut changer la grammaire de la relation avec ses clients pour prendre acte de cette transformation des attentes des gens. Et c'est la raison pour laquelle nous, au club, on promeut ce qu'on appelle la considération client, c'est-à-dire une logique où on essaye d'être dans une approche collaborative, inclusive, plutôt que verticale, dans une logique individualisée plutôt que massifiée, et dans une logique où on essaye de partager le pouvoir avec le client, faire du client un partenaire en définitive.
Alors c'est quoi exactement la considération client ? Quand vous dites partager le pouvoir avec le client, ça se traduit comment exactement ?
Ça se traduit par des idées très simples, ouais, parce que c'est là aussi où il faut être pratique dans les choses, parce que là où les entreprises ont du mal à s'adapter, c'est elles comprennent que les attentes du client ont changé, elles ont des difficultés à transcrire ça dans leur pratique opérationnelle ou dans leur organisation. Donc pour faire les choses simplement, nous on a lancé un programme il y a un an et demi qui s'appelle Club Makers, dans lequel il y a trois initiatives. La première, c'est de demander à nos clients leurs avis sur ce qu'ils souhaiteraient qu'on déploie comme services, idées et nouveautés.
Une boîte à idées assez classique.
C'est purement et simplement une boîte à idées sous forme digitale, avec comme seule fonctionnalité nouvelle, c'est que les autres clients peuvent voter pour l'idée que leur semble la plus intéressante, sympa. Et cet hiver, on déploie pour la première fois une idée tirer de cette boîte à idées digitale dans l'ensemble de nos villages en Europe cet hiver. L'offre de table a changé pour devenir beaucoup plus orientée santé et bien-être. Ah, c'est un exemple. D'accord. Deuxième initiative, on a ouvert...
Vous m'inquiétez, là.
On arrête d'aller au
Rassurez-vous, oui.
Emmanuel, vous m'inquiétez. La charcuterie, du pâté.
Oh, les buffets végétariens,
ce n'est pas une substitution, c'est une addition.
Non.
Deuxième idée simple, on a ouvert un chat entre clients. Vous allez sur clubmed.fr, sur la page d'un village, Punta Cana, par exemple, en République dominicaine. Vous pouvez poser une question que nous adressons à des clients qui reviennent de Punta Cana ces deux dernières semaines, de manière à ce qu'il y ait un échange d'informations chaud entre clients.
Est-ce que ça, vos conseillers au siège, ils n'auraient pas eu la réponse ?
Mes conseillers, toutes mes équipes commerciales, elles ont une réponse, mais froide. Ah, je veux dire, ils ne reviennent pas du village.
Bien. Immédiatement.
Voilà. Immédiatement. Ouais, il se passe des choses dans nos villages, tous les jours.
Bien sûr.
Donc, on livre une information entre guillemets froide sur notre site, et puis les clients entre eux peuvent s'échanger de l'information chaude. Et ça, c'est un vrai partage de pouvoir, parce que qui contrôle l'information contrôle le pouvoir. Donc, il faut accepter de laisser vos clients répondre à d'autres clients, et c'est une forme de partage de pouvoir. Et la troisième initiative simple aussi a été d'ouvrir mon comité de direction à une dizaine de clients l'an passé. Donc j'ai tenu deux comités de direction.
Vous prenez comment avec... Vous les recrutez comment? Parce qu'il faut quand même certaines compétences pour assister à un CODIR quand même, non?
Ah non, on recrute pas, on fait pas passer d'entretien
d'accord,
de sélection.
D'accord.
C'est sur la base du volontariat, parce qu'il faut être prêt à y consacrer du temps. Mais c'est un exercice passionnant aussi pour vos clients, parce qu'ils se sentent considérés.
Et vous les écoutez bien vraiment?
Ah bah oui, on les écoute bien, bien sûr. Ils sont comme autour de cette table-là, sur la base d'un agenda de comité de direction classique, et ils donnent leurs opinions. Et leurs opinions sont intéressantes, ne sont pas pour autant parole d'évangile. C'est pas vie ma vie. On est dans un partage de pouvoir, on n'est pas dans une transmission de pouvoir. Mais vous recevez en direct la voix de votre client, et il influe forcément en direct sur certains de vos choix. Donc ce sont des initiatives simples, c'est là que c'est intéressant, je pense, à partager, parce que la grande difficulté des entreprises et des marques, c'est d'arriver à passer du constat à la transformation concrète. C'est là-dessus que ça bloque. Et c'est pour ça que le pouvoir, à mon sens, il est potentiellement chez le client, il n'est pas encore... Totalement chez le client.
Catherine Danerol, l'une des directrices de La Poste, directrice business unit courrier à La Poste. Je reprends juste l'exemple que nous donnait donc Emmanuel Lechib lorsqu'il était jeune, parce qu'il était beau, Emmanuel Lechib.
Aussi.
Voilà, je plaisante, évidemment, Emmanuel. Lorsqu'il faisait des études de marketing quartier par quartier. Il disait, voilà, il y avait un bloc où il y avait des familles, donc on inondait dans les 200 boîtes aux lettres, des pubs pour les couches culottes, par exemple. Ça, c'est fini maintenant, cette massification. Vous êtes capable, vous, d'adresser du courrier ou de faire adresser des catalogues que vos clients de La Poste utilisent, quasiment 200 catalogues, 200 courriers différents, 200 pubs différentes, parce que vous connaissez bien chacun des habitants de l'immeuble, c'est ça ?
Alors effectivement, il y a toujours ces deux types de communication, des communications un petit peu globales, massives. Par exemple, des magasins, des hypermarchés vont communiquer dans leur zone de chalandise pour annoncer les promotions qu'ils sont en train de faire et permettre aux clients les attirer dans leur magasin. Et quand ils arrêtent de le faire, ils constatent immédiatement une diminution de la fréquentation. Donc il y a une communication de proximité qui est extrêmement importante. Et puis après, il y a une communication plus ciblée, ce qu'on vient de dire sur les attentes des clients, quelque chose de plus personnalisé. C'est vrai quand ils vont dans les magasins, c'est vrai aussi dans la communication qu'ils reçoivent. Une communication plus ciblée en fonction de leur goût. Hein. S'ils aiment aller à Punta Cana, eh bien, ils vont recevoir plutôt ce type d'informations. C'est aussi quelque chose de plus personnalisé maintenant, à la fois parce qu'on traite les données de manière différente et puis parce que les techniques d'impression permettent de faire des choses beaucoup plus personnalisées. Dans le catalogue que l'on va recevoir, il y a des marques qui le font. Eh bien, il y a des pages qui sont spécialement destinées au client qui va recevoir ce catalogue.
Attendez, ça veut dire quoi? Que vous êtes capable d'imprimer sur mesure dans cet immeuble finalement 200 catalogues différents?
Alors il y a effectivement des marques d'habillement par exemple qui ont lancé des catalogues qui sont des catalogues très très personnalisée. C'est vrai en France, on le voit aussi aux États-Unis où il y a des catalogues qui sont envoyés de manière personnalisée en fonction des comportements d'achat, mais aussi des consultations du client sur le site de la marque, par exemple. Donc oui, techniquement, les imprimeurs aujourd'hui savent imprimer des catalogues qui sont beaucoup plus personnalisés qu'auparavant.
Et des catalogues toujours en papier, des catalogues toujours avec des jolies photos, où on arrive à faire quelque chose, quelque part encore plus dans l'ère de 2018 ?
Alors effectivement, vous avez raison, les catalogues, ils changent, ils sont plus qualitatifs. On a moins de catalogues, mais on a mieux de catalogues. Et les marques continuent à envoyer des catalogues parce que les Français, les clients, ils aiment en recevoir, ils aiment les consulter. Ils les consultent dans leur salon, dans leur cuisine, au moment où ils veulent. Et ces catalogues, ils doivent être plus inspirants. C'est la tendance que l'on observe, plus qualitatifs. Ils vont permettre aux clients de se projeter dans l'univers de la beauté et de la mode.
Par exemple, donnez-nous un exemple.
Par exemple, on va non pas avoir des mannequins tout simples, mais on va avoir une inspiration. C'est des tendances aussi que l'on observe. On peut avoir des catalogues qui vont être enrichis, par exemple avec de la réalité augmentée, avec son smartphone, on va projeter sur l'image du catalogue et là devant soi, on va pouvoir voir, par exemple, on veut acheter un nouveau canapé, on le projette dans son salon, est-ce qu'il va être bleu, est-ce qu'il va être marron, c'est ça que permet aussi la technologie aujourd'hui. Donc de la personnalisation, de l'enrichissement et tout ça pour créer de l'émotion, de la fidélisation.
Si je pousse l'exemple pour reprendre le Club Med, par exemple, on peut très bien envisager en effet dans un catalogue eh bien, la vue à 360 degrés depuis ma terrasse, depuis le haut de mon chalet ou finalement sur une piste de ski avec en imaginant des
devant
la descente
buffet.
Par exemple
devant le buffet aussi
on a pas encore la possibilité de sentir l'odeur du buffet.
Oh, bah, bien sûr, ça va faire.
Tiens, il faut quand même une raison d'y aller à la fin.
Voilà. Bon, Charlotte Journeau-Bord, justement fondatrice de Wishiba. Alors les clients, ils demandent à se sentir unique, hein, on le disait tout à l'heure notamment avec Nelly Rodier, avec Sylvain Rabuel, avec Emmanuel Le Chypre, hein, quelque part. Comment vous répondez à cette unicité, cette demande d'émotion, justement. Racontez-nous en quoi ça consiste.
Bah, alors déjà, on vient de dire, les clients demandent à se sentir unique, mais en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que si on se pose, nous, la question de ce dont on a envie, on se rend compte qu'on a tous envie de se sentir unique et de se sentir valorisé et de se sentir écouté. Et en fait, moi, je suis partie de ce constat-là et de ce que je voyais autour de moi et pour développer une technologie qui permet de parler à chacun de nos clients de façon personnalisé, authentique, pour créer du lien et une véritable relation avec le client. Donc, comment ça marche? En fait, donc sur Wishibam, qui est notre activité B2C, donc tout le monde peut aller regarder sur Wishibam, il y a effectivement tout un catalogue de marques. Et
ça, c'est du classique.
C'est du classique, c'est un site marchand.
On cherche une ceinture en cuir, on cherche un blouson, des chaussures. Ça, vous proposez.
Ça, voilà. Je propose.
C'est le classique.
Et en fait, ce que je propose en plus, c'est la possibilité pour chacun de mes clients d'être accompagné, écouté et conseillé dans son achat s'il a un doute, une envie. Voilà. Et donc, comment ça marche? Donc, le client dialogue avec un chatbot qu'on a développé nous. Une fois que le chatbot a bien capté les besoins du client, c'est envoyé sur notre outil de recommandation qui va recouper cette information qui est une information qualitative puisque c'est du wording client avec une information qui est quantitative, donc l'historique, le parcours du client, depuis combien de temps il est client, est-ce que c'est un bon client, etc.
Et qu'est-ce qui nous recommande ça? Par exemple, tiens, et si Emmanuel Le Chypre m'invite, par exemple, samedi soir à dîner chez lui, je ne sais absolument pas comment m'habiller, hein, je ne suis jamais allé chez lui, vous me connaissez un petit peu parce que vous m'avez dans vos fichiers. Est-ce que vous allez réussir à me proposer des choses, finalement, qui font que eh bien, je me sentirai à l'aise chez lui, au milieu de ses amis, de sa famille, je ne sais pas, par exemple?
Alors, en fait, donc il y a un algorithme qui va faire la première sélection, et en fonction de vous, ce que vous nous avez dit sur vous, comment vous vous sentez, ce que vous aimez, comment est Emmanuel Le Chypre, comment va être le dîner, qui seront les invités, etc. Et ben il y a un humain, qui est un expert, qui va regarder cette sélection faite par un algorithme, qui va sélectionner ce qu'il y a de mieux dans la circonstance que vous, enfin pour le contexte pardon que vous avez décrit, et qui va du coup vous envoyer sa sélection qui sera du coup hyper personnalisée avec un conseil, un petit mot, une petite attention où vous vous rendrez compte que c'est une vraie personne qui s'est occupée de vous et qui a qui à écouter ce dont vous aviez besoin et envie.
Et au final, j'ai des chances d'acheter, en effet.
Alors nous, on s'est rendu compte, en fait, c'était un peu par hasard, parce que à la base, on voulait juste faire bien pour le client. C'est-à-dire que c'est vraiment parti d'une intention qui était de, nous, on veut offrir la meilleure expérience client possible. Et en fait, on n'avait pas tellement pensé à, en fait, en offrant la meilleure expérience client possible, bah, le client, il va juste beaucoup plus acheter et beaucoup plus revenir. Mais c'est assez logique, finalement. Et donc, effectivement, nous, on a un taux de conversion qui est très élevé. On a 23,7% de taux de conversion par rapport... En fait, vous avez 23,7% de chances d'acheter ce qu'on vous a recommandé.
Oui.
Et comme vous avez eu un bon service et une vraie attention et qu'il y a souvent une relation qui a commencé à se créer entre vous et le conseiller, et bah, il y a 84% de chances que vous reveniez soit pour faire une demande, soit pour repasser un achat.
Un taux de conversion à 23-24%, c'est par rapport à un achat sur Internet
C'est énorme, c'est 10 fois le taux de conversion d'un site marchand qui marche bien.
D'accord, très bien. Oui, Emmanuel Le Chip et Nelly Rodi juste après.
Ça montre bien que... parce que j'imagine que quand un client est nouveau, bah on le connaît pas, donc faut discuter avec lui, etc. Et c'est là où on voit que ce qui devient aussi fondamental, c'est la confiance que vous allez nouer avec votre client.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que on voit bien que l'enjeu de base pour réussir à convaincre ses clients, ça va être de les connaître à travers toutes les datas qu'on va pouvoir collecter partout. Mais ça, c'est quelque chose alors que tout le monde fera, et c'est quelque chose qui va en plus être maintenant encadré de façon beaucoup plus stricte. Et donc la capacité de connaître votre client, elle va maintenant dépendre de plus en plus des informations que lui va accepter de vous livrer, de donner, donc de la confiance qu'il aura en vous. Et ça, cette confiance, en plus de l'enjeu de base que va être la maîtrise de la donnée, c'est vraiment ça qui fera la différence.
Nelly Rodi.
Je me demandais si les conseillers avaient une formation psychologique.
Non, alors c'est une très bonne question. Ils n'ont pas de formation psychologique, mais par contre, donc nous on est sur de la mode et de la beauté, donc c'est des experts. C'est des stylistes
en produits.
Exactement, d'accord. C'est des experts en produits qui ont parlé beaucoup avec les marques. Et en fait, avant de les recruter, on leur fait passer des entretiens, on regarde comment ils répondent aux clients, on regarde comment ils répondent au téléphone.
Est-ce qu'il y a beaucoup de retours de consommateurs ?
On en a beaucoup, là, encore aujourd'hui, justement.
Quel est le taux de retour ?
Ah non, retour produit, non, produit. Il est très faible. On a 1% de retour produit.
Donc, les conseillers sont bons.
Donc, les conseillers sont bons. Voilà, mais par contre, on a beaucoup de retours positifs.
Et la relation humaine s'établit vraiment dans
entre consommateurs. Elle s'établit vraiment, c'est-à-dire que moi, en fait, j'adore lire ce qu'écrivent les clients, parce que ça me permet d'améliorer mon outil et d'apprendre, enfin de regarder ce que j'apporte à mes clients. Et je me rends compte que parfois on rentre dans des niveaux de conversation très intimes où il y a des gens qui nous disent bah voilà, moi je vais revoir mon ex, vous comprenez, c'est hyper important pour moi, et qui rentrent et qui donnent beaucoup de détails, etc., pour être le mieux conseillé possible. Et puis on se rend compte aussi que souvent le client qui a fait 2-3 demandes avec un même conseiller reste sur ce conseiller-là, puisqu'on lui donne toujours l'option de pouvoir changer de conseiller. Encore aujourd'hui, justement, j'ai reçu un petit mot d'amour d'une de nos clientes qui nous faisait un retour produit et qui nous disait, bah, écoutez, voilà, juste pour vous dire, je vous retourne le produit parce que finalement, c'était une montre. Finalement, c'était pour un cadeau, mais je me suis trompée. Mais je voulais simplement vous dire que j'ai jamais été aussi bien considérée. J'adore ce service et je reviendrai, j'en parlerai à toutes mes copines.
Exactement.
Donc, voilà.
Mais ça pose un autre défi qui est le dialogue,
oui.
Donc la discussion, donc la parole.
Il faut pouvoir le faire.
Et deux, l'immédiateté.
Bah oui.
Et moi, derrière tout ça, la question qui m'intéresse, parce que maintenant on a bien compris, on l'a cerné là, notre nouveau client. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les structures s'adaptent. C'est-à-dire que comment vous adaptez vos équipes, parce que finalement, moi, je trouve que les outils entre le client et la société, ils sont assez performants maintenant. Mais en revanche, comment dans les boîtes vous allez réussir à équiper vos personnels entre guillemets d'outils, oui, etc.
Je sais pas. Alors tiens, justement, Catherine Dannerol, prenons l'exemple justement d'une immense entreprise, une grosse entreprise, qu'est la Poste, par exemple. Comment on fait ?
Alors effectivement,
on explique quoi, les facteurs de, ou d'autres, ou les agents de tablettes, d'outils numériques.
Pour les activités de la Poste, effectivement, nous développons de nouvelles activités, de nouveaux services qui s'appuient sur la confiance, parce que c'est un élément important qu'on a évoqué, qui s'inscrit aussi dans les valeurs de l'entreprise, hein, qui est un autre élément très important dans la fidélisation de nos clients. Et pour faire en sorte que nos facteurs puissent mieux communiquer avec les clients, nous les avons équipés d'un facteur qu'on a appelé le Facteo, et qui leur permet non seulement d'assurer leur activité classique,
vous
mais aussi de développer,
hein,
c'est un smartphone, qui leur donne des informations sur leur tournée, les services qu'ils doivent rendre, et qui permet aussi d'interagir avec l'entreprise qui a donné ce service. Et je crois que ça illustre le défi auquel sont confrontés tout le commerce. Hein. Vous êtes une jeune start-up du e-commerce. Nous, La Poste, on est presque une ancienne start-up, nous aussi. Mais en tout cas, cette nécessité de transformation, on l'a vu encore au salon du retail, c'est la dynamique.
New York, vous étiez.
Voilà, c'est la dynamique de l'omnicanal avec le client au centre. Évidemment, c'est pas le même client, c'est un client qui est plus exigeant, plus instantané, qui veut donner son avis et faire en sorte que ce soit fluide, sans silo entre le magasin physique, hein, qui reste quand même encore au cœur de la consommation des clients outre-Atlantique comme ici. Donc se mêler le commerce et le e-commerce, la communication online et la communication offline, voilà, c'est à ça que les marques s'attachent aujourd'hui.
Un petit mot, parce que vous allez nous quitter, Nelly Rodi.
Non.
Ah, vous, finalement, vous restez avec nous. Bonne surprise à la soirée. Bon, bah, très bien.
On est en live, en direct. Oui. Non, je voulais dire que certaines boutiques de mode sont en train de réfléchir en ce moment à la tablette et par rapport aux data, à des informations qui tombent, c'est-à-dire la consommatrice va rentrer dans la boutique et on va tout de suite savoir, la vendeuse va immédiatement savoir si elle aime les blouses, par exemple.
Ouais.
Et elle va lui dire, j'ai préparé en salle d'essayage pour vous 4 blouses et qui sont blanches, rouges, parce qu'on sait qu'elle a cliqué plusieurs fois sur le blanc, sur le rouge, etc., sur la blouse. Simplement, je crois que la relation humaine est extrêmement importante, mais il faudrait peut-être pas, c'est un message de vieille que je fasse.
Oh là là,
mais il faudrait peut-être pas que nous allions trop loin là-dedans. Parce que je me sens un peu fliqué, personnellement. Si je rentre dans la boutique, il faut... Et c'est pour ça que je posais la question sur la formation psychologique de la vendeuse. Parce que c'est extrêmement important de pas être un poids, d'être de trop. Il faut vraiment conseiller.
Alors,
dans le bon sens.
Un mot, Charlotte Journeau-Bord, de Wishibam, justement. Et puis on revient dans un instant, je vous promets, Catherine Danerol, Sylvain Rabuel, tout le monde lève la main.
Alors,
c'est passionnant.
Je suis 100% d'accord avec vous. Nous, pour être tout à fait honnête, on a testé notre solution sur le e-commerce. Et donc, du coup, comme c'est le client qui nous pose des questions, c'est un peu le meilleur des vendeurs. C'est-à-dire que c'est le vendeur qui vous aide que quand vous lui demandez de l'aide. Donc, il vient pas, il vous embête pas, mais vous avez besoin, il est là. Donc, sur le e-commerce, ça marche très bien. Après, cet outil de recommandation-là qu'on a développé, il est prêt aussi à être mis en place en magasin. Et là où vous avez raison, c'est que il faut faire attention à, justement, pas que le client se sente espionné, surveillé, etc.
Fiché, voilà.
Fiché.
Mais quand vous dites que vous allez tester ça en magasin, c'est quoi, par exemple?
En fait, on va équiper les vendeurs de tablettes vendeurs qui vont justement... Si Nelly Rodi arrive dans un magasin et a mis de côté une veste ou une robe chez Courrèges qu'elle aimait beaucoup, eh ben on va lui dire, ah bah regardez, on va voir que ça fait longtemps qu'elle a pas acheté... je sais pas, un pantalon et une ceinture, et qu'elle a cliqué la ceinture là justement, et ben on va lui mettre de côté la ceinture en lui disant, d'ailleurs je me suis dit en regardant la robe que vous aviez choisie que cette ceinture pourrait peut-être vous plaire. Et là où vous avez raison, c'est que en fait, pour moi, les nouvelles technologies sont là à aider l'humain à prendre les bonnes décisions. Mais la différence entre un humain et un algorithme, c'est qu'en fait un humain, il a du bon sens. Enfin, il est censé avoir du bon sens et
la relation,
exactement.
Et la relation humaine et l'émotion.
Donc c'est à l'humain, c'est aux vendeurs d'être des bons vendeurs.
Bon, on continue dans un instant. Les décodeurs de l'écho, donc autour de la satisfaction, la relation au client, l'expérience client. On va retrouver évidemment tous nos amis dans un instant. Restez avec nous sur BFM Business, à la télé et à la radio. On revient vite. Hein.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, autour des nouvelles tendances au service des stratégies de marque face à un client de plus en plus exigeant qui réagit de façon de plus en plus immédiate, justement, parfois qui est sans concession, qui joue des réseaux sociaux. Comment les marques doivent-elles s'adapter? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que le client prend le pouvoir sur les marques? Tout à l'heure, Sylvain Rabuel, le directeur général du Club Med, nous disait non, non, le pouvoir, il est partagé, à tel point qu'il a intégré dans son codir des clients du Club Med. La question qu'on se posait il y a un instant avec Nelly Rodi, avec Charlotte Journeau-Bord, justement, c'est à force de vouloir connaître le client, est-ce que ce client ne va pas se sentir quelque part fiché? Vous vouliez prendre la parole.
Absolument, c'est le paradoxe dans lequel on est aujourd'hui avec les développements technologiques, et notamment la maîtrise des données, c'est qu'elles conduisent à une massification de l'approche de la relation client et de l'approche de son client, qui est totalement contradictoire avec l'aspiration profonde qu'on a évoquée précédemment. Donc aujourd'hui, il y a un piège technologique dans lequel la plupart des entreprises et des marques se sont engouffrées ces dernières années, qui font que leur client est plus que jamais une proie marketing. Et nous tous, on le ressent dans notre quotidien. C'est qu'on est ciblé, sur-ciblé, cerné, entouré, sur-sollicité, sans en réalité la moindre considération, j'y reviens, pour notre individualité, notre singularité, ce qu'on souhaite vraiment. Et l'alternative, elle va être simple, c'est soit on arrive à s'affranchir, on décide de s'affranchir de ces pratiques-là pour aller vers des logiques, une fois de plus individuées, plus collaboratives, plus horizontales et plus respectueuses de nos clients. Et à mon sens, c'est vraiment ce qui l'intérêt profond, durable des entreprises et des clients, c'est le choix qu'on fait au Club Med. Ou alors, on fait des choix de plus court terme, avec des rentabilités peut-être de court terme, et à mon avis factices, plus importantes, mais qui, à terme, détruisent de la valeur client durable. Et c'est ce qu'on appelle, nous, la considération. C'est passer du client au partenaire. Votre client est un partenaire. Vous traiteriez pas un partenaire de la manière dont certaines marques ou entreprises traitent leurs clients. Il faut faire ce choix, en tout cas c'est un choix, mais la technologie potentiellement nous conduit dans un piège et dans une trappe de valeur dans la relation avec nos clients et dont il faut se garder.
C'est ça, c'est la difficulté de s'adapter à des clients toujours plus connectés. Par exemple, Catherine Danerol, directrice Business Unit du courrier à la Poste.
Alors effectivement, le client, il a des attentes qui sont multiples. Hein. Il va accepter de partager un certain nombre de données parce qu'il va attendre en échange quelque chose de la marque. Quand il donne sur le réseau social beaucoup d'informations, il va recevoir des informations ciblées. Donc, par certains côtés, il aspire à cet échange de données contre de la personnalisation de l'offre qui lui est faite. Et en même temps, il a besoin de construire dans la durée la confiance avec la marque. Et la marque, son intérêt, c'est ce que vous dites, elle a besoin dans la durée de fidéliser son client. Et pour ça, elle a besoin de bien doser sa communication, elle sera de toute façon omnicanale. On n'est pas à l'heure d'un seul moyen de communication. Et elle doit le doser pour le fidéliser. Voilà, parce que c'est là c'est ça la valeur qu'il va apporter.
Alors, Charlotte Journeau-Bord, Wishibam, et ensuite Emmanuel Le Chypre.
Alors, en fait, effectivement, on parlait de la donnée. Le client accepte de donner de la donnée si ça lui rend un service. Et en fait, aujourd'hui, on se rend pas compte, mais on accepte tout pour aller vite. Et du coup, à la fin, on est ciblé sur ciblé, on est retargeté de tous les côtés. Et à la fin, on se désinscrit de tout. Et comme dans tous les jeux de pouvoir, il y a une régulation. Et c'est aussi pour ça que la législation évolue et protège de plus en plus le client pour que il y ait des choses à accepter de façon claire. Comme ça, le client, il sait que quand il coche une case...
Il peut pas faire autrement, le client.
Bah, en fait, franchement, ça évolue vraiment. Mmh. Et ça évolue vraiment. Et ça évolue plutôt dans le bon sens. Mais finalement, on se rend compte que si ça évoluait pas, on continuerait à faire du marketing de masse en faisant semblant de faire de la personnalisation avec de la data qu'on sait pas vraiment très bien toujours utiliser.
Et une stratégie de considération client comme la mène Sylvain Rabuel, le directeur général du Club Med, ça concerne plutôt les marques haut de gamme qui ont les moyens justement, eh bien, de déployer ce type de stratégie,
où ça concerne finalement toutes les autres marques, à votre avis, Emmanuel Le Chypre?
Moi, je préfère laisser...
Alors, allez-y, Sylvain Raduel.
À mon sens, dans le domaine du haut de gamme, ça va être un incontournable.
C'est incontournable, d'ailleurs. D'accord.
Dans le domaine du haut de gamme, on s'adresse à des gens sursollicités qui ont les moyens de s'offrir tout. Comment ils vont faire leur choix? Ils vont faire leur choix en privilégiant les marques qui prêtent une attention particulière à leurs attentes singulières, mais qui en donnent des preuves concrètes. C'est pas une chose de le dire, et puis c'est une autre chose de le faire. Donc, l'exemple que je donnais d'ouvrir son comité de direction, c'est un exemple, mais dans nos villages, nous, Club Med, notre responsabilité, c'est de savoir détecter les attentes particulières d'un foyer, d'une famille qui arrive, et de mettre en face un parcours client adapté. On a lancé l'année dernière 70 signatures qui sont des pratiques, des services, des expériences, des parcours clients correspondant à des situations clients. Je vous prends un exemple. Au sport d'hiver, pour toutes les familles qui sont avec qui viennent nous voir avec des enfants, bien, nos géos désormais prennent en charge tous les matins, tous les jours, l'habillage des enfants en tenue de ski.
L'habillement, ouais.
L'habillement. Ouais. Pareil, c'est nos équipes qui appliquent la crème solaire. C'est nos équipes qui portent leur ski. C'est nos équipes qui mettent aux enfants leurs chaussures de ski.
Pour les grands, c'est pas possible.
Ah, pour les adultes, c'est moins possible. Mais c'est un exemple qui est assez parlant parce que ça répond à un besoin client d'un certain type de client, une situation client, et ça témoigne qu'on l'a identifié et qu'on est capable d'y répondre de façon spécifique et individualisé. Et on a identifié 70 services.
Mais pour vous,
et signatures
c'est pas très difficile, franchement. Vous aviez, en gros, vous aviez tout ça quand même dans les gènes quasiment. C'est pas une métamorphose considérable pour le Club Med.
Non, mais c'est vrai que le Club Med,
c'est un truc en plus.
Ça accompagne la montée vers le gamme qu'a lancé Henri Giscard d'Estaing.
Ce qui était profondément la culture. Du Club Med, c'est dans le code génétique du Club Med dès le départ.
Des Trigano.
C'est pour ça que je veux pas atténuer vos les mérites, mais je trouve que vous aviez déjà ce code génétique là, donc c'est plus facile forcément de s'y adapter parce que c'est dans votre culture. Je trouve qu'après les défis, c'est pour des boîtes qui sont pas du tout dans cette culture là. Alors je veux pas citer La Poste au départ, mais il y a des tas de boîtes. Prenez la SNCF, prenez tout ça où on a quand même du tout et n'importe quoi en matière de politique commerciale.
Catherine Danerol de La Poste, allez-y, répondez donc.
Alors, je répondrai pas sur la Poste, mais sur nos clients, parce que on parle du haut de gamme, on parle de médias premium, etc. Je pense que les clients, ils attendent aussi des promotions, ils attendent d'être informés, parce qu'ils attendent aussi du pouvoir d'achat. On le voit sur les sites, comme sur dans les magasins et sur la communication. Mais ils l'attendent pas de n'importe quelle façon. Ils attendent que ce soit personnalisé, qu'ils vont et donc de bénéficier d'informations qui vont les intéresser sur les promotions. Ça leur est égal qu'il y ait des promotions sur les voyages au sport d'hiver s'ils détestent la neige. Vous voyez, donc ils ont besoin d'avoir des informations qui sont ciblées pour eux. Mais je pense qu'il y a il en faut aussi pour tous les consommateurs et pas seulement ceux
du club. Oui, Nelly Rodi,
je peux me permettre simplement.
Ils sont très importants.
Alors attendez, chacun son tour. Nelly Rodi, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu.
Non, il y a quand même quelque chose dont on parle pas du tout, c'est le storytelling, c'est-à-dire l'histoire de la marque et attirer le consommateur. D'abord, on est en train de parler de proximité, etc., de relations humaines, mais la première des choses, c'est toute l'histoire que l'on va raconter et qui va faire rêver ce consommateur et qui va faire qu'il a envie de rentrer dans votre catalogue ou cliquer. Et ça, c'est quelque chose qui m'apparaît déjà au démarrage extrêmement fondamental.
Mais
c'est de
vous
travailler
avez raison, c'est
sur,
vrai.
Déjà toute l'ADN de la marque et de raconter toute l'histoire.
Rappelez-vous les campagnes du club où il y avait des verbes qui y avait rêvé, manger, il y a des trucs. Non mais je vois par exemple il y a des secteurs où on
bon
en est,
consommateur.
Où on en est. Ouais. Alors vous allez
chacun son tour.
J'ose pas dire la suite parce qu'alors vous allez encore plus
obséder.
Non mais il y a un secteur par
minutes.
Exemple.
Allez-y.
Très vite.
Emmanuel.
Un secteur par exemple qui ne sait absolument pas faire ça, raconter des histoires et donc générer de la valeur à partir d'histoires, c'est l'agroalimentaire. C'est-à-dire que vous voyez, il y aurait des tas d'histoires formidables à raconter à partir de tout un tas de produits que les agriculteurs aujourd'hui ne sont pas capables de raconter.
Exactement.
Et donc ils ne sont pas capables de créer et donc de capter cette valeur qui viendrait du rêve que vous vendez en même temps que votre produit.
Tout à fait. Ça,
alors Catherine Dallaire, La Poste, Charlotte, Journaux Bord de Wishibam, juste après.
Alors moi je dirais que c'est la question de la cohérence, la communication des marques, elle doit être cohérente avec les valeurs qu'elles portent, et c'est ce que vous disiez Nelly, pour inspirer les clients et les inspirer différemment selon qui ils sont, quel est leur secteur.
Moi, ce que je trouve intéressant, justement, et au Club Med et chez La Poste, c'est que vous avez quand même des ambassadeurs de la marque qui parlent directement avec vos clients et qui peuvent aussi vous faire remonter des informations directement en parlant et en échangeant avec ses clients et grâce aux, je ne sais pas s'il y a des applications mises en place qui permettent de faire remonter rapidement ces informations pour que derrière ça impacte la structure et que ça la fasse évoluer. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est vraiment cette capacité-là à pouvoir échanger avec le client, lui véhiculer ses messages et adapter aussi ses messages à ses envies. Aux envies.
Mais il y a une relation humaine.
Une vraie relation. Avec les potiers et avec les géants.
Le client n'a pas forcément pris le pouvoir, mais il est toujours partenaire des marques.
Il est, moi je pense que oui, effectivement, le client est toujours partenaire des marques, mais un client qui ne serait pas écouté changerait de marque. Donc, dans ce sens-là, il a quand même un
pouvoir quand même malgré tout de cette...
il y a une sorte de symétrie des attentions, la marque elle doit être attentive au client et lui il va lui redonner en échange de la fidélisation.
Nelly Rodi, le pouvoir appartient à qui au final? Aux marques, aux clients?
Bien évidemment que c'est un partenariat, mais le consommateur a quand même un pouvoir énorme si on compare par rapport à...
Allez, le mot de la fin.
Oui, le client a un pouvoir considérable aujourd'hui, il ne s'en sert pas encore complètement.
Exactement.
Mais dans les 10 ans à venir, il va prendre ce pouvoir-là, parce qu'il a des instruments de pouvoir à sa disposition grâce au numérique. Donc il faut anticiper cette révolution-là qui reste à venir. Et c'est le choix de les considérer et de les intégrer à notre écosystème et d'en faire des partenaires.
Objectif, 1 milliard d'euros sur la France.
1 milliard d'euros en France d'ici 2021. Absolument pas.
Voilà.
1 milliard d'euros d'ici 2021 et de nombreux projets de nouveaux villages.
C'est bien. Sylvain Rabuel avec nous, le directeur général du Club Med. Charlotte Journaubord, la fondatrice de Wishibam. Nelly Rodi qui avait fondé son agence de design, agence de tendance, Nelly Rodi, tout simplement. Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique à BFM Business. Et puis Catherine Danerol, directrice Business Unit Courrier à La Poste. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très très vite, bien sûr.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.